Nous sommes le jeudi 6 mai. Bonjour Ringo, bonjour Esteban. Je suis ravi de vous recevoir. Nous allons parler d'un sujet triste, dur, terrible, une tragédie qui a cours depuis quelques jours en fait dans son apogée, mais qui est présent depuis longtemps en Colombie, avec une répression terrible, féroce, des personnes disparues, des personnes violées, des personnes tuées. Nous allons en parler, mais avant cela, si vous êtes d'accord, nous allons faire une première partie de présentation et de jalon. Et nous pourrions commencer, si vous le souhaitez, par vous présenter. Qui êtes-vous et quels sont vos liens avec la Colombie?
Bonjour, je m'appelle Ringo, j'habite à Bruxelles, je suis chilien d'origine. Je suis arrivé en Belgique l'année 88 comme réfugié politique qui a participé dans la lutte contre la dictature de Pinochet. Et par la suite de mon engagement, j'ai pris connaissance de tout ce qui s'est passé au reste de l'Amérique latine. J'ai fondé avec des autres camarades une association qui est très reconnue, qui s'appelle ARLAC, qui siège à Bruxelles, mais qui a des associations un peu partout en Europe et en Amérique latine. Et peu à peu, je me suis intéressé au conflit colombien et finalement, ça est devenu une véritable passion. Donc, je suis au canton des militants colombiens, fini pour m'intégrer, connaître, étudier, mais aussi j'ai visité le pays. Finalement, j'ai pris un parti très grand de mon temps pour soutenir la cause populaire colombienne.
D'accord, merci beaucoup Ringo. Esteban?
Oui, alors moi, je suis membre du collectif de Nouvelle Génération Chili, très actif sur les questions du Chili et souvent interpellé par les questions qui arrivent en Amérique latine. Donc notre collectif considère que c'est important de faire un lien avec des luttes qui ont lieu dans d'autres pays, surtout d'Amérique latine, parce qu'on constate qu'il y a des connexions qui se font entre ces différentes mobilisations, même s'il y a des particularités nationales. Personnellement, je connais la Colombie parce que j'ai connu beaucoup de réfugiés politiques ici à Genève, qui proviennent de Colombie. J'ai connu un peu leur histoire et collaboré aussi avec eux dans certaines manifestations de solidarité avec l'Amérique latine, qu'il s'agisse de la Colombie, mais aussi de Cuba ou du Venezuela. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de faire un geste de solidarité et déjà en m'intéressant à la situation, même si je pense que j'ai moins de connaissances que Ringo dans ce sujet, mais j'ai quand même quelques notions. Et disons, notre collectif de Nouvelle Génération Chili collabore également avec son association ARLAC, justement pour avoir des synergies communes. Comme ARLAC traite beaucoup plus le sujet colombien, on essaye de collaborer avec eux. Et puis, on diffuse, là, ces derniers temps, on a, dans notre page Facebook et dans notre chaîne Telegram, on a commencé à diffuser aussi du matériel sur ce qui se passe en Colombie, pour essayer de comprendre aussi, au-delà de toutes les images qui peuvent arriver, peuvent choquer, submerger un peu d'émotion la communauté colombienne à l'étranger, mais aussi les citoyens suisses. On essaye aussi d'essayer de comprendre, faire une analyse sur ce qui se passe en Colombie et pourquoi, mis à part le fait qu'on sait qu'il y a le gouvernement colombien se caractérise pas du tout par être d'avoir une main faible vis-à-vis des mouvements sociaux. On sait très bien qu'il y a des multiples massacres et ça fait des dizaines d'années que ça arrive et c'est vraiment des choses affreuses qui arrivent. Et puis là, actuellement, on peut voir que cette répression, elle s'étend à des secteurs beaucoup plus larges parce qu'il y a justement eu une mobilisation plus large. Et donc, bon, tout ça, c'est des choses qu'on pourra justement aborder maintenant, je pense.
Oui, tout à fait.
Dans cette interview.
Absolument. Alors, on va d'abord fixer quelques jalons comme ça. C'est un petit peu Wikipédia hein, sur la Colombie. Donc, la Colombie, 27 fois la Suisse, 50 millions d'habitants. Un pays que l'on appelle méga divers. Hein, ça veut dire qu'il a une faune, une flore d'une richesse remarquable. Un pays qui est à cheval sur la cordillère des Andes, sur la forêt amazonienne, avec une grande façade pacifique, juste en dessous du Panama. Ça, c'est vraiment des points de repère de base, hein. Donc, on sait qu'il y a des ressources naturelles abondantes. Ça, effectivement, bah, ouais, ça implique des choses. En fait, c'est un paradis, quoi. On sait que, voilà, le café, les émeraudes, le pétrole, le charbon sont parmi les vecteurs économiques. Que la capitale, eh bien, c'est Bogota. C'est une énorme mégapole de 7 millions d'habitants. 7-8 millions, il me semble. On y parle espagnol, mais également des langues indigènes. Je crois que c'est à peu près 65 langues indigènes qui sont localement recensées et parlées en Colombie. Voilà, il y a un passé, effectivement, et peut-être que ça explique d'une certaine manière cette violence immédiate, cette répression féroce, un passif militaire, j'ai l'impression. Peut-être s'est-il installé avec dans le rapport avec les USA, et notamment le plan Colombie, qui déjà à l'époque était dénoncé par une militarisation immédiate et incongrue d'une certaine manière. Alors, est-ce que on est dans un héritage d'un réflexe militaire qui pourrait expliquer cette répression, en aucun cas la justifier, bien entendu, mais cette répression, vous nous direz ce que vous en pensez. J'aimerais peut-être juste dire que, voilà, les mouvements sociaux, les mouvements de protestation sont présents, en tout cas actuellement, depuis un moment, et que c'est depuis depuis le 28 avril, qu'une grève nationale a cours. Le 28 avril, on parle même de 5 millions de personnes dans la rue. Alors, la première question, c'est, voilà, Duque, le président actuel, et Zapatero, le chef des armées, qu'est-ce qui commande en vrai et qu'est-ce qui se passe en vrai en Colombie actuellement?
Avant d'arriver à l'actualité, je pense qu'il faut déterminer quelques éléments qui sont moins connus, mais qui touchent à l'histoire du conflit lui-même. Au milieu des années 60, l'armée américaine se trouve au Vietnam face à une guérilla d'origine nationaliste et communiste très puissante. Au départ, ils ont utilisé massivement les soldats en croyant que serait comme un conflit classique de la Deuxième Guerre mondiale, des grandes manœuvres, des grands contingents de militaires, des moyens très très grands. Mais en fait, c'était une guérilla qui ne s'exposait pas beaucoup et qui donnait des coups quand la situation lui était favorable. Il travaillait très bien avec la population dans laquelle il se cachait et venait finalement à isoler, à casser l'appareil répressif organisé par l'armée de Vietnam du Sud, soutenu par les Américains. Les Américains sont rentrés dans ce piège en croyant chaque fois de trouver la solution rapide en apportant de plus en plus de militaires. Ça fait que finalement, on va dépasser un nombre très, très élevé. En voyant que le conflit n'avait pas d'issue rapide, certains têtes pensant au Pentagone ont décidé de concevoir une tactique qui permettrait de concentrer leur expérience de combat contre des groupes insurgents. Et finalement, ceci est devenu ce qui plus tard s'est rappelé le plan Phoenix. Le plan Phoenix, c'est une recyclage d'une série de tactiques déjà existantes de la lutte contre les mouvements de libération nationale appliquées, entre autres, par les Français au Vietnam, mais ailleurs aussi en Algérie. Et aussi l'expérience anglais, on compare avec différents mouvements de libération nationale, surtout en Afrique. Et le plan Phoenix comptait un aspect politique. Il fallait isoler les communistes, les révolutionnaires de la population. Il avait un aspect technologique en utilisant à l'époque, pour la première fois, de manière massive, l'informatique. Et il y avait des aspects d'utilisation de la guerre psychologique. Je vais vous donner un exemple. Les Vietnamiens, c'est un peuple fort et croyant. Et donc, pour leur culture, les morts, enfin, la personne décédée, il faut l'enterrer, sinon son âme, elle vague, oui, elle dans la souffrance. Et alors, les Américains, en sachant qu'il y avait cet aspect, ils ont monté des audio qui ont transmetté avec des grands haut-parleurs montés sur des hélicoptères où on entendait la voix de ton oncle qui ne peut pas se reposer parce qu'il ne trouve pas son âme, parce qu'il a été mort sous un bombardement et donc n'a pas de corps. Ceci avait un effet très dur pour la population, tant et grave, que lors des conversations à Paris qui ont amené finalement à la fin, à la signature de l'accord de paix 1975, la seule première mesure que les Vietnamiens demandent avant d'ouvrir les conversations, c'est la cessation de la guerre psychologique. Ça, c'est pour expliquer que c'était quelque chose qui a existé, la guerre psychologique existe depuis toujours. C'est une forme peut-être pas répertoriée, mais ça existe comme une forme d'action pour miner la volonté de lutte de l'ennemi. Mais ici, elle est à un niveau très élevé. Le plan Phoenix, donc, essayait de casser la relation qu'il y a entre un corps de guérilla qui agit d'une manière de cellule communiste avec de larges populations de paysans. Il fallait séparer les paysans du noyau dur qui était révolutionnaire, armé, qui suivait des directives de leur parti, de leur armée de libération nationale. Le plan Phoenix aussi, c'était un génocide organisé de manière scientifique. Par exemple, dans certains villages, ils ont pris des gens qui étaient plutôt proches des Américains. Ils les ont massacrés d'une manière brutale, bestiale. Et en démembrant les gens vivants, des trucs inimaginables, parce qu'ils se sont dit, les simples paysans, c'est quoi que les professeurs, les pharmaciens, parce qu'ils portent des lunettes, il est à un autre niveau social, et qu'il est favorable à nous, mais nous, les massacrons à lui, qu'est-ce qu'il va lui arriver à lui? Il va se tirer la conclusion que si lui il continue à soutenir la résistance, les conséquences peuvent être terribles pour leur famille. Et donc, c'était un plan qui avait un aspect stratégique d'utilisation de la psychologie de masse à un niveau très grand. Et il fallait pas seulement tuer, parce que vous savez, quand vous êtes en guerre, si vous parvenez à toucher l'ennemi, lui se rend, lève les mains, la guerre est finie. Les accords de Genève et les différents accords de traitement Le prisonnier dit que c'est lui qui c'est fini pour accepter sa défaite. Il ne peut pas être touché, mais à la fois il ne peut pas reprendre les armes. De toute façon, la guerre c'est fini pour lui. Mais la guerre continue pour celui qui ne s'est pas rendu. Et là, c'est le problème. Il faut faire accepter par des couches très importantes de combattants que la guerre était finie. Et pour cela, alors, il fallait pas seulement tuer, sino tuer de manière bestiale avec des méthodes qu'aujourd'hui on peut associer à l'État islamique et on peut les associer à ça. Et donc, finalement, qu'est-ce qui a donné comme résultat? Les chefs des contingents américains près de Saigon, dans le sud, aujourd'hui Ho Chi Minh-ville, dans les montagnes, il y a Kouchi, que c'est la région où il y a les tunnels. Un an après de l'application pilote dans un petit hameau, pensait que le chef de la CIA, le chef militaire, s'est promené sans carton dans les campagnes. Donc, il était intouchable. La population avait appris, avait acquis la leçon qu'il ne fallait pas soutenir les communistes et pas toucher les Américains. Cette expérience, si aurait été possible de l'élargir au reste du pays, il est possible que l'histoire aurait été différente et que peut-être les Américains auraient gagné la guerre du Vietnam. Pourquoi n'a pas été fait en grande échelle? Parce que le temps était déjà changé. Les gens voulaient rentrer au pays. Il y avait la libération de mœurs, les hippies, la marijuana. Les gens voulaient le pacifisme. Il y avait Mohamed Ali. Et donc, c'était un changement d'époque. Et la guerre déplaisante, impopulaire, faisait que les gens ne voulaient plus se battre. Mais il est resté une question pour la CIA. Qu'est-ce qui se passe si on exporte tout cet ensemble d'expériences ailleurs? Et là, vous savez la question, la réponse à la question, où est-ce qu'il va aller l'équipe qui a dirigé le plan Phoenix? Où est-ce que vous croyez qu'il va finir? Bon, en Colombie. Oui. Et donc, vous voyez, quand vous voyez le film de Rambo qui revient au Vietnam chercher son compagnon blessé, que vous savez que les Américains gagnent la guerre du Vietnam tout le temps, mais c'est un problème psychologique. Bon, la partie qui est plus cachée, c'est que l'équipe qui a dirigé le plan Phoenix va être envoyée en Colombie pour appliquer les méthodes utilisées au Vietnam à une échelle inimaginable. Pour les Américains, pour les services secrets, pour la DEA, pour la CIA, pour le Pentagone, la guerre en Colombie, c'est la continuation de la guerre du Vietnam qu'ils voulaient gagner à tout prix. Mmh. Et donc ça explique la violence. Le principal facteur de la violence, c'est pas les Colombiens, c'est l'impérialisme américain et la politique de domination en utilisant le terrorisme à une échelle jamais inimaginée. La guerre, il y a plus de déplacés, de réfugiés colombiens que palestiniens ou que syriens. Il faut voir la caractéristique. Un deuxième aspect, c'est que cette guerre est née dans le contexte de la confrontation de la guerre froide. Et guerre parce qu'ils s'affrontent, mais les froids parce que les belligérants principaux, dont les grands pays ne s'affrontent pas dans leur pays, mais dans la périphérie, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et donc, on pourrait aussi, par là, faire un deuxième constat. C'est que le conflit colombien, il est de loin un des seuls survivants, un des seuls conflits survivants de la guerre froide. Peut-être à côté du conflit qui vit la Philippine, où il y a aussi une guérilla d'orientation communiste qui fait face à l'armée pro-américaine de l'époque, plus ou moins de la même époque. Mais le niveau d'affrontement qui vit la société colombienne, il est de loin beaucoup plus grand, plus vaste. Je ne vais pas vous accabler avec des chiffres, ni des informations supplémentaires sur la mort, la massacre, mais plutôt l'analyse. Donc, d'un côté, les Américains vont essayer en Colombie de vaincre les mythes de la défaite au Vietnam. Deuxièmement, c'est un conflit très caractéristique de la guerre froide, mais qui est perdu pendant plus de 60 ans. Donc, le peuple colombien est de loin des peuples les mieux organisés, les plus héroïques de la planète. Il a sa paysannerie à supporter sur son dos 60 ans de guerre totale des Américains et de l'armée locale contre une population qui a finalement, malgré tout, il a fait face et il a été à plusieurs moments sur le point d'avoir une victoire totale. Donc, ça, c'est les deux éléments pour ne pas citer tout l'aspect souffrance du peuple colombien, parce que le Colombien, c'est un peuple aguerri. Ils n'aiment pas qu'on s'apitoie de leur sort, parce qu'à différence de la Suisse, à la différence de la Belgique, là-bas, il y a des vrais révolutionnaires, il y a une véritable gauche qui se bat pour la population, et donc la violence qu'ils subissent, elle est proportionnelle à leur radicalité, à leurs caractéristiques anticapitaliste. Quand vous ne faites presque rien et vous faites des manifestations pour que les gens puissent se donner des bisous parce qu'il n'y a plus de masques ou parce que les gens demandent juste qu'on n'enlève pas les droits au chômage ou qu'on puisse rentrer les petits vieux dans les homes, en Colombie, c'est pas des questions véritables de fond. C'est la lutte anticapitaliste dans son expression la plus haute.
Mmh. Esteban, tu souhaites ajouter quelque chose?
Disons, bon, tout ça, je pense que c'est justement très important de faire une analyse en contexte historique. Mm-hmm. Parce que justement, on n'est pas uniquement face à comment dire, si on doit voir comment la situation en Colombie est traitée par les grands médias, on dirait que, basiquement, c'est, voilà, encore un pays du tiers-monde où il y a des problèmes, parce que dans tous les pays du tiers-monde, il y a des problèmes. Et voilà, et on met, je sais pas moi, une minute dans le téléjournal pour en parler. Mais en réalité, il y a tout un fond historique qui est vraiment très important à comprendre. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est, je rebondis un peu sur ce que disait Ringo, c'est que, par exemple, on a appris que le gouvernement colombien a retiré son projet. C'est vraiment un élément qui est extrêmement important parce que ce gouvernement a retiré son projet à cause de la mobilisation populaire et la massivité de cette mobilisation. J'ai vu dans quelques articles, par exemple de la BBC, où ils parlent de quelques milliers de manifestants. Mais c'est pas du tout crédible que quelques milliers de manifestants dans une situation classique de mobilisation sociale en Colombie réussissent à faire retirer un tel projet, un projet qui est stratégique aussi pour le gouvernement colombien. On pourra y revenir sur cette réforme fiscale. Donc, comme t'as également William parlé d'un chiffre de 5 millions de manifestants là, le 28 avril. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi d'autres chiffres comme 7 millions à peu près de personnes qui se sont mobilisées. Et ça, si on le rapporte à la population, ouais. 5 à 7 millions, c'est entre 10 et 13% de la population qui sort dans la rue. C'est vraiment une situation exceptionnelle. J'ai pas l'impression que que les médias colombiens ont même mentionné un minimum cet aspect, ni les médias internationaux. À titre de comparaison, la plus grande manifestation au Chili, qui s'appelle comme ça la plus grande marche, qui a eu lieu le 25 octobre 2019 et qui a vraiment eu, elle, pour le coup, une diffusion dans les médias internationaux, c'était également 15% de la population de la capitale de Santiago du Chili et de tout le pays. Et ces mobilisations a relancé le processus de changement constitutionnel au Chili. Si on devait rapporter ce chiffre à la Suisse, ça serait à peu près comme si 1 200 000 personnes sortaient dans la rue pour exiger au Conseil fédéral de retirer un projet. Ça serait une sorte de référendum de manifestation quoi populaire qui permettrait de retirer un projet. Donc imaginez, c'est énorme, 1 200 000 personnes. C'est à peu près deux fois et demi ce qu'a été la grève féministe en 2019. Où il y a eu, je me rappelle bien, 500 000 personnes dans toute la Suisse. Et c'était une manifestation assez officielle, puisque même des autorités politiques y ont participé. Mais là, ça serait, si on devait faire la comparaison, ça serait le 2,5 fois de manifestants, et puis qui n'autoriseraient pas du tout les autorités politiques à y participer. Donc c'est pour voir le niveau de mobilisation qui est assez exceptionnel dans la situation colombienne, même si effectivement c'est un peuple qui se mobilise depuis des années, qui a des mouvements sociaux qui sont organisés, qui sont puissants et qui sont brutalisés depuis très longtemps. Mais là, l'élément nouveau, tout comme dans d'autres pays, par exemple, je pense que c'est depuis les Gilets jaunes en France, la situation, il y a eu des mobilisations aussi en 2019 en Équateur, au Chili, en Colombie, il y a eu aussi à cette période, et aujourd'hui en Colombie, c'est qu'il y a des masses populaires, surtout des jeunes, qui s'ajoutent à cette organisation sociale et politique traditionnelle. Et ce sont des secteurs qui sont beaucoup moins liés aux organisations qui convoquent ces manifestations. Du coup, elles ne sont pas forcément dans la même logique. Après, on pourra rentrer parce qu'il y a des particularités nationales, évidemment, mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau global, de nouveaux secteurs qui sont souvent les plus vulnérables ou les plus touchés par les problèmes socio-économiques, mais qui, depuis très longtemps, ne sont pas des secteurs qui se mobilisent et probablement ne sont pas des secteurs non plus qui participent aux élections, ni à des institutions, ni à des mouvements syndicaux. C'est assez nouveau que ces masses de personnes se joignent à des mobilisations. C'est déjà un bon point qu'ils se joignent à des mobilisations d'organisations de gauche ou progressistes, mais elles ne répondent pas aux mêmes logiques d'organisation. Ça applique, je pense, plusieurs points, notamment un, c'est que la négociation pour sortir du conflit est plus compliquée parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur ou même la continuité des mobilisations ne dépend pas d'un interlocuteur, elle dépend d'une énergie, d'une accumulation de choses qui font que tout d'un coup des personnes, surtout des jeunes, et là je partirais plus sur la question du Chili et de la Colombie, sont prêts, des jeunes qui sont prêts à dépasser la peur aussi de la répression et à donner leur vie dans ce genre de conflit et toujours avoir des nouvelles personnes qui manifestent jour après jour après qu'il y ait des morts, mais aussi toute une situation de terreur avec les médias, avec les nouveaux réseaux sociaux. C'est vraiment on n'a pas forcément accès à toutes ces informations, mais à la fois voir certains événements vidéo des personnes mourir en direct, par exemple, ou à la fois des messages qui sont envoyés par des anonymes qui expliquent que la répression va être plus dure, qui expliquent, disons, qui font une forme de propagande de terreur pour justement démobiliser les gens. Et la question ici, c'est de savoir comment réussir à dépasser cette peur pour vaincre, en tout cas, momentanément, les projets du gouvernement. Donc, ça, je pense que c'est aussi important de faire des comparaisons entre différents pays et puis de comprendre que c'est pas uniquement des peuples qui sont victimes, mais ils sont victimes parce qu'ils sont en train de lutter. Ils sont en train de lutter, ils sont en train de mettre fortement en cause la légitimité des pouvoirs. Et c'est la raison pour laquelle la répression est si forte.